Bonjour, Monsieur Stephen Guilbeault.
Bonjour.
Merci de nous accorder cette entrevue. Vous êtes directeur et cofondateur de l'organisme Équiterre.
Oui.
Un petit mot sur l'organisme Équiterre, sur ses missions.
C'est une organisation non gouvernementale à la base québécoise. On célèbre cette année nos 25 ans, mais maintenant notre action est encore très ancrée au Québec, mais dépasse les frontières du Québec. Nous avons un bureau à Ottawa, très actif sur la scène fédérale et sur la scène canadienne, et même un peu au niveau international, beaucoup autour des questions de l'agriculture durable, réduction de l'utilisation des produits toxiques, des pesticides, et sur la question des changements climatiques, à la fois les énergies renouvelables, la diminution de l'utilisation des hydrocarbures, l'électrification des transports. On travaille également sur des enjeux autour de l'éco-responsabilité.
Des missions vastes et très variées.
Oui.
Évidemment, on va parler ici des changements climatiques. Bon, l'érosion des côtes, il y a l'élévation du niveau de la mer, il y a le réchauffement des températures. On le sait, les changements climatiques ont des effets de plus en plus visibles au pays. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de la situation, M. Guilbeault?
Je pense qu'il y a deux choses qu'on doit dire. D'une part, on a commencé au Canada à prendre au sérieux la question de l'adaptation au changement climatique parce que nous sommes déjà entrés dans l'ère des changements climatiques. Il y a déjà des impacts mesurés, mesurables de ça à différents niveaux. Vous avez parlé de l'érosion côtière, l'augmentation du niveau de la mer. On constate des impacts, par exemple, au niveau des prairies canadiennes, de plus en plus de feux de forêt. Niveau de précipitation de plus en plus faible. Même chose sur la côte ouest, grande période de sécheresse que la côte ouest a connue au cours des dernières années. À d'autres endroits, c'est complètement l'opposé. C'est trop d'eau, trop vite, donc des inondations très importantes. On a connu ça dans l'est du pays au cours des dernières années également. On doit s'adapter au changement climatique. On doit commencer à y penser de plus en plus et à investir là-dedans. Dans certains cas, ça peut vouloir dire de reconstruire certaines infrastructures parce qu'elles sont maintenant vulnérables, par exemple à l'érosion côtière, à la hausse du niveau de la mer. Dans d'autres régions, ça veut dire de s'adapter à beaucoup plus d'eau que ce qu'on avait avant, et ailleurs, s'adapter à beaucoup moins d'eau, par exemple, comme dans le secteur agricole, dans certaines régions, par exemple. Et ça, nous avons commencé à le faire. Souvent, il y a un peu d'argent de certaines provinces, le gouvernement fédéral, mais c'est encore trop peu. Il y a plusieurs municipalités qui commencent à prendre le taureau par les cornes, mais là aussi, c'est pas quelque chose de généralisé encore.
Trop peu pour les défis énormes qui sont déjà là et qui peuvent encore évidemment s'aggraver et se renforcer. Le Canada a quand même signé l'accord de Paris sur les changements climatiques. L'une des règles premières, c'est quand même de contenir d'ici à 2100 les températures en dessous de 2 degrés Celsius. Est-ce que les objectifs sont réalisables selon vous?
C'est la deuxième partie de l'équation qui est celle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre, il faudra toujours s'adapter à plus de changements climatiques, à plus d'impact des changements climatiques. Or, au retour de Paris, le gouvernement canadien a travaillé notamment avec les provinces pour élaborer un plan de lutte au changement climatique pan-canadien. Hélas, encore à ce jour, le plan fédéral ne nous permet pas d'atteindre les objectifs que le Canada s'était fixés à Paris, qui sont de l'aveu même, en fait, du gouvernement fédéral, qui sont insuffisants, donc ces objectifs-là. Mais malgré ça, nous n'avons toujours pas de plan d'action pour atteindre les objectifs, alors qu'il faudrait, selon les mots de la ministre de l'Environnement, Mme McKenna, aller encore plus loin. Alors, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis pas en train de dire que le gouvernement canadien ne fait rien, mais il en fait trop peu. On doit redoubler d'efforts. Il faut mettre en place de nouvelles mesures. Et c'est pas facile, c'est controversé, c'est difficile. Mais si on ne s'attaque pas à la production de pétrole au Canada, nous n'y arriverons pas. Les sables bitumineux sont responsables de presque la moitié de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre au pays depuis 1990. Alors, si on n'est pas prêt à s'attaquer à la pollution de ce secteur-là, on n'y arrivera pas. Et c'est là où on voit un peu la contradiction de l'action du gouvernement fédéral.
Parce qu'évidemment, il y a des contraintes économiques, au-delà des contraintes évidemment aussi écologiques. Comment on peut comme ça allier les deux? On sait que, par exemple, au Canada, la province de l'Alberta fournit le pétrole canadien, l'exporte. Il y a aussi d'énormes problèmes avec l'exportation par les pipelines. Donc, comment on fait là pour concilier à la fois, évidemment, les pressions climatiques et les besoins économiques?
Je pense que ce dont nous avons besoin, c'est un plan national vers une transition énergétique, vers une société qui va émettre de moins en moins de cette pollution-là, tout en étant une société prospère. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des emplois? Parce que, vous avez raison, c'est une réalité. Moi, je veux pas qu'il y ait des gens en Alberta ou en Saskatchewan ou nulle part qui perdent des emplois parce que tout à coup, le prix du baril de pétrole s'effondre, comme ce que nous avons vu il y a quelques années, parce que il y a des investisseurs partout sur la planète qui disent « nous allons arrêter d'investir dans les combustibles fossiles ». Je pense à plusieurs fonds d'investissement, à la caisse de dépôt et placement et bien d'autres. Alors, il faut commencer à prévoir, autant il faut prévoir l'adaptation au changement climatique, autant il faut commencer à prévoir à quoi la société canadienne de demain va ressembler en termes de sa création d'emplois, en termes des investissements, en termes économiques et même social. Et de penser qu'on peut faire ça tout en continuant à investir dans les combustibles fossiles, c'est incompatible. Et je suis pas en train de dire qu'il faut, par exemple, fermer les sables bitumineux demain matin. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour les investissements futurs dans notre développement énergétique, il faut que ces investissements-là ne soient plus dans les combustibles fossiles. Alors, on a des pipelines, on a des puits de pétrole qui sont en place, on a des gens qui travaillent dans ce secteur-là et qui vont continuer de le faire pendant plusieurs années. Mais pour les nouveaux investissements, pour la nouvelle création d'emplois, on ne peut plus continuer de miser sur ce secteur-là.
Et les changements climatiques, évidemment, changent la vie de plusieurs communautés canadiennes. On le voit, évidemment, dans le nord du pays, dans l'Arctique. On voit aussi le long des côtes. Vous en avez parlé tantôt avec l'érosion des côtes. Comment le Canada peut s'en tirer là, avec ces changements drastiques qui, quand même, ont des effets déjà directs sur les populations locales?
Encore une fois, on a deux choix, en fait. On peut simplement réagir à la pièce lorsqu'une catastrophe arrive, ou on peut essayer de voir venir les coûts, de prévoir une action plus concertée en travaillant avec les municipalités, avec les provinces et territoires canadiens. Donc, en ayant une vision plus globale et un plan de match pour faire face à ces changements-là, nous savons qu'ils sont là, nous savons qu'il va y en avoir de plus en plus. On peut soit jouer à l'autruche ou être plus proactif. Et jusqu'à maintenant, on a un peu, hélas, eu tendance à jouer à l'autruche et à espérer que ça n'arriverait pas cette année, pas ici, pas comme ça. Et là, on a l'air surpris quand tout à coup, ça arrive. On n'a plus le droit de faire comme si on ne le savait pas.
Et est-ce que vous demeurez optimiste? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements ou est-ce que les institutions vont encore continuer à jouer ce jeu de cache-cache? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je me qualifierais d'optimiste prudent. Je vois beaucoup de changements, je constate, tant à l'échelle canadienne qu'à l'échelle internationale, qu'il y a de plus en plus de communautés, de municipalités, d'entreprises, de provinces et États qui mettent en place des mesures, qui mettent l'épaule à la roue. Alors, et c'est très encourageant si on compare à Équiterre cette année, fête ses 25 ans, lorsqu'on a commencé il y a 25 ans et qu'on parlait de changement climatique, on passait littéralement pour des extraterrestres. Alors qu'aujourd'hui, sauf quelques exceptions, c'est admis, les institutions financières l'ont compris, l'ensemble des gouvernements l'ont compris, la population en général l'a comprise également. Donc, alors maintenant qu'on sait qu'il y a un problème et que ce problème-là, il nous concerne toutes et tous, il faut poser de plus en plus de gestes. Il faut changer nos façons de faire, nos façons d'investir, nos façons de fabriquer nos biens, de se transporter, de produire l'énergie. Mais nous avons les solutions pour ça. Il faut simplement les mettre en œuvre. Et la question pour moi, c'est serons-nous capables de le faire suffisamment vite pour limiter le plus possible ces impacts-là des changements climatiques?
Et peut-être pour terminer, quel risque, selon vous, est le plus important au Canada, le risque climatique le plus sérieux ou le plus grave ici au pays? Ce serait lequel, selon vous?
Encore une fois, c'est difficile d'en identifier un seul, puisque selon les régions canadiennes, ces risques-là sont très variés. Alors, si vous êtes sur une côte, l'une des côtes canadiennes, vous êtes probablement à risque au niveau de l'érosion côtière, de l'augmentation du niveau de la mer. Si vous êtes dans une grande ville, les risques pour vous sont probablement plus au niveau de canicules très importantes. On a vu des canicules dans certaines régions du monde et même dans des pays très développés comme la France, qui ont fait des dizaines de milliers de morts, il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous êtes dans une zone qui est prône aux inondations, il y a probablement des bonnes chances pour qu'il y en ait de plus en plus des événements qui se produisaient aux 100 ans, se produisent maintenant au quart de siècle. Et les événements qui se produisaient aux 10 ans se produisent pratiquement chaque année. Alors, selon votre réalité où vous êtes au pays, les impacts ne sont pas les mêmes, mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes toutes et tous des victimes potentielles.
Et comment fait-on quand on a un voisin qui d'abord se retire ou qui n'a pas signé l'accord de Paris, qui n'a pas de règles très 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 importantes au niveau de pour changer ces données-là? Je parle évidemment des États-Unis à l'ère de Donald Trump. Comment on fait quand on a un voisin comme ça aussi pollueur? Est-ce que justement la part du Canada va changer quelque chose à cette équation qui bien sûr inclut la planète entière?
Deux choses. D'abord, on ne peut pas se permettre d'attendre les récalcitrants. Alors, évidemment, les États-Unis sont un bien plus grand émetteur de gaz à effet de serre que le Canada, mais nous avons une responsabilité morale, nous avons des obligations internationales relatives à notre poids historique, hein, pas juste le poids actuel de notre pollution, mais celle que nous avons causée au cours des dernières décennies. Et le fait que notre voisin ne fait pas son bout de chemin à lui ne nous enlève pas la responsabilité de faire le nôtre. D'autre part, il faut voir que malgré les intentions de l'administration Trump de ne pas mettre en œuvre l'accord de Paris, il y a toute une mobilisation aux États-Unis d'États américains, de villes, d'entreprises, à la fois des entreprises des secteurs technologiques comme Google et Apple, mais aussi même des compagnies pétrolières américaines qui ont dit « nous allons le faire », qui ont lancé le mouvement « we're still in », nous sommes toujours là. Et qui ont dit aux Nations Unies, nous allons faire ce que le gouvernement fédéral américain s'était engagé à faire. Alors, je pense qu'il faut faire une distinction entre la société américaine et le gouvernement américain dans ce cas-là.
Et peut-être les choses changeront plus vite, peut-être en passant par les sociétés. Merci beaucoup, Monsieur Stephen Guilbeault, pour votre temps et cette entrevue très intéressante.
Ça me fait plaisir.
On le rappelle, vous êtes directeur et cofondateur de l'organisme Équiterre. Merci encore.
Au revoir.
Au revoir.